Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ça, c'est de la vie! Oh, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue bravo à quelques centimètres!
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène pour un tour du monde. Ça faisait longtemps, un bon tour du monde, mais un tour du monde en vélo et avec une particularité dans l'air du temps qui fait vraiment plaisir, c'est que Florian est avec sa chérie quand ils font leur tour du monde actuellement en vélo, et ben ils s'arrêtent régulièrement pour ramasser les déchets. Et donc Florian aka Cycling Trip est avec nous pour nous raconter ce trip assez dingue. Florian, comment ça va ?
Eh bien, ça va. On est en repos ici à San Francisco, donc tout va bien.
Déjà, avant même qu'on attaque cette histoire, tout ce trip et tout ce qui vous arrive et comment ça se passe, ça veut dire quoi exactement ramasser les déchets ? Parce que j'imagine que là, tu t'arrêtes toutes les 45 cm pendant ton tour du monde. Donc, qu'est-ce que tu entends par ramasser les déchets ? Et ça se manifeste comment ? Et voilà, explique-nous tout.
Donc le projet Cycling Trip a plusieurs actions, dont le ramassage des déchets. Et donc le ramassage des déchets est un geste symbolique. Moi, ce que je veux montrer, c'est que si tout le monde s'y met, on peut ramasser beaucoup de quantités. Donc moi, je pèse les déchets que je ramasse. Et pour l'instant, j'ai déjà collecté 840 kilos en un an et demi.
Pas mal.
Je montre que voilà, une personne peut ramasser beaucoup de kilos. Et c'est aussi l'idée de montrer que partout où je vais dans le monde, je trouve des déchets, que ce soit dans les pays pauvres ou dans les pays riches. Donc c'est un problème qui touche le monde entier.
Et ça aussi, c'était ma deuxième question. Quand tu dis que tu ramasses, c'est-à-dire des fois tu t'arrêtes, comment tu sélectionnes les lieux où tu vas t'arrêter et dire « Ok, là je me chauffe ». Je suis devant peut-être un parterre d'ordures ou au contraire quelques ordures et tu vas t'arrêter juste faire un geste. Comment ça se passe ?
Donc ça dépend des pays, c'est assez aléatoire parce qu'il y a des pays où c'est très facile de collecter 2 kilos de déchets et il y a d'autres pays où collecter 2 kilos de déchets, c'est pas simple dans le sens où il faut prendre des fois une journée pour collecter 2 kilos, mais il y a quand même des déchets.
Pourquoi tu dis 2 kilos ?
Parce qu'en fait, l'idée, c'est de récolter. Donc, je m'arrête à 1, 2 à 3 kilos par jour. Donc, je dis 2 kilos pour donner la moyenne.
Ouais.
Mais voilà, en fait, je fais mes étapes à vélo. Dès que je vois des déchets sur le bord de la route, je collecte ces déchets. Après, c'est toute une stratégie parce que le problème, c'est que vu que je suis à vélo, quand je collecte ces déchets, ça veut dire que ça fait du poids supplémentaire
sur mon
vélo. Donc, ça rend l'étape plus compliquée. Donc, après, c'est avec l'expérience et après, c'est stratégique. On regarde sur les GPS s'il y a des stations-service, s'il y a des villes pas loin de là où je collecte les déchets pour pas me retrouver à voyager avec beaucoup de kilos. Néanmoins, ça m'est arrivé de réaliser des étapes de 90 km sans trouver de poubelle, donc me retrouver avec plusieurs kilos de déchets sur mon vélo et j'ai pas de solution pour les jeter.
Tu vois, ça c'est une question qui me vient parce que tu vois, j'étais à Bali récemment et la collecte de déchets, c'est en fait juste, il y a des mecs qui collectent les déchets, ils les mettent au même endroit dans une décharge ou ils les brûlent devant chez eux. Est-ce que justement, c'est quand dans les pays que tu as fait, et on y reviendra d'ailleurs, tu as fait quoi comme pays jusque-là ?
Alors pour l'instant, donc je suis parti de la France il y a un an et demi, je suis descendu vers l'Afrique du Nord, donc j'ai été par l'Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal. De là, j'ai fait du bateau stop jusqu'au Cap-Vert.
Nice.
Ensuite, j'ai pris un avion jusqu'à Rio de Janeiro, donc le Brésil. Je suis descendu vers l'Uruguay, l'Argentine. Donc je suis resté au nord de l'Argentine jusqu'à Mendoza. Ensuite, j'ai été au Chili.
Yes.
C'est depuis le Chili à Santiago que ma petite amie m'a rejoint, donc il y a un an. Et donc, tous les deux, on a remonté toute l'Amérique du Sud par la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie. On a fait une traversée en bateau jusqu'au Panama, traversé toute l'Amérique centrale jusqu'au Mexique. Et donc, nous voilà aux États-Unis.
Génial,
Voilà.
là à San Francisco. Sacré
Voilà.
trip. Et justement, dans les pays les
Ouais.
plus pauvres, quand tu collectes les déchets, est-ce que tu sais au fond que quand tu mets dans une poubelle ou quelque part, tu sais qu'en fait ça va atterrir dans une autre grande décharge et que ça va être centralisé ou que ça va être cramé? Ou pas?
Exactement,
Ouais,
en
si,
fait,
ouais.
oui, je le sais que en fait, des fois, c'est pour ça que je dis toujours que mon geste reste symbolique, parce que je
Ouais.
sais très bien que sur les 840 kilos que j'ai collectés, finalement, il y en a très peu qui vont être très bien gérés derrière. C'est des pays où il y a une très mauvaise gestion des déchets, mais le voyage à vélo permet d'être vraiment au plus près des locaux, et il m'arrive de voir des gens brûler leurs déchets, et il m'est arrivé d'aller leur poser la question pourquoi ils le font. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur pourquoi ils le font. Et en général, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je comprends en fait ce geste finalement.
C'est quoi justement quand tu dis t'as appris pas mal de choses par rapport à ça, c'est que finalement qu'est-ce qui te donnait en général comme raison? C'est simplement le fait qu'il n'y a pas de structure et qu'ils doivent se démerder tout seuls?
Exactement, dans les pays les plus pauvres, je pense que c'est loin d'être une priorité pour les politiques et les gouvernements de mettre en place une vraie gestion des déchets, même si pour moi, elle paraît une priorité, pour eux, ça ne l'est pas du tout. Donc ce sont des gens qui sont soumis à une consommation importante de plastique, d'aluminium, de tout type de déchets finalement, et donc se retrouvent avec beaucoup de déchets chez eux. Alors il n'y a plus que deux solutions pour s'en débarrasser, soit les brûler, soit les jeter ailleurs. Et finalement, quand on sait ça, en fait, c'est une logique.
Ouais, mais clairement, parce que c'est vrai que nous on est là, enfin, ah, il les brûle, il les machins, mais nous on a la chance de mettre ça dans une poubelle, et comme par magie, ça
Oui.
disparaît. Et cette poubelle, on la
Oui.
re-remplit, elle se revide comme par magie.
Oui.
Donc c'est ça en fait. C'est compliqué, je trouve, de taper sur les doigts et de juger des gens qui n'ont
Exactement.
pas les structures que l'on
Ça
a.
vient surtout de l'éducation, en fait, je dirais. Et sauf que certains qui n'ont pas reçu cette éducation, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont jamais été éduqués à gérer ces déchets. Et de toute façon, ils n'ont pas vraiment de solution. Et puis en plus, ça nous a permis d'apprendre que même dans nous, les pays les plus riches, en fait, on se rend compte qu'il y a des déchets qui se retrouvent dans les pays les plus pauvres. Et voilà, il y
Ouais.
a eu beaucoup de choses maintenant de reportages qui ont été faits où on le
Effectivement.
sait. Et donc, bon, voilà, maintenant, c'est inévitable. On peut pas nier ce problème également.
C'est ça, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu les reportages, en gros, les plastiques ou les matières premières, ce qu'ils appellent les matières premières, des déchets de matières premières, sont finalement revendus à des pays du tiers-monde, soi-disant pour être triés, recyclés, sauf qu'au final, ils les revendent ou ils les redonnent. Pour se débarrasser purement et simplement des stocks et pas les avoir chez nous et se retrouvent dans des pays qui en plus n'ont pas du tout les structures que l'on a nous. Ça, c'était un petit
Exactement.
point. Il y a une autre question qui moi, m'a chatouillé l'esprit. Déjà, toi, tu es parti en tour du monde en vélo, donc qui est quand même un
Oui.
déplacement super propre avec un impact carbone et environnemental super faible. Pourquoi tu as eu cette envie supplémentaire de vouloir ramasser les déchets? Ça t'est venu comment de se dire, tu sais quoi, je suis en vélo? Je me sens vachement peace, je suis en harmonie, mais je vais prendre quand même des déchets avec moi.
Donc en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est une suite logique de mes expériences. En fait, j'ai commencé par un tour de l'Europe à vélo en 2015-2016, pendant 10 mois. Et
Chaud.
donc, cette idée-là était de faire une première expérience de voyageur à vélo, tout simple. Donc, c'est juste l'idée de voyager. Et en fait, j'ai été particulièrement choqué de voir autant de déchets sur le bord des routes, parce que
Ah ouais.
quand on voyage à pied, quand on voyage à vélo, c'est là où on est le plus confronté vraiment de voir les bords des routes. C'est quelque chose qui m'a choqué. Et
Est-ce qu'il y a,
notamment,
ouais,
oui.
notamment, est-ce qu'il y a des pays comme ça qui ressortent un peu plus que d'autres, sans les juger, hein, c'est juste pour savoir.
Bah en fait, de règle générale, c'est souvent les pays les plus pauvres. Donc en Europe,
Évidemment.
par exemple, quand on était passé par l'Albanie, bah c'est exactement les mêmes situations et gestion des déchets que j'ai pu retrouver en Afrique ou en Amérique du Sud
Ok.
dans ce voyage. Donc oui, l'Albanie, par exemple, est un exemple.
C'est
Mais
assez complexe, ouais.
même dans les pays les plus développés, comme on peut parler de la Scandinavie, qui ont des systèmes de déchets encore plus développés que le nôtre en France, on retrouvait quand même des déchets dans la nature, en bien moindre quantité, mais il y en avait quand même. Donc je me suis dit qu'il fallait parler de ce problème, et du coup j'ai profité de ce voyage pour en parler.
Et justement, c'est moi j'aimerais qu'on fasse un petit pont, un petit, parce que quand tu as cité de plusieurs pays, il y en a plusieurs en fait qui m'ont un petit peu qui m'ont donné envie d'en savoir plus parce que je connais pas. Notamment il y a le Cap-Vert. Est-ce que tu peux me parler du Cap-Vert? Est-ce que tu peux me parler de l'Uruguay? C'est des pays qui sont dans ma target list et j'ai eu entendu des trucs super bien comme des trucs super pas terribles. Et toi, c'est quoi ton ressenti personnel, évidemment?
Alors moi, au Cap-Vert, par exemple, donc il y a plusieurs îles. Donc moi, j'ai visité qu'une île. J'ai fait le tour d'une île. Okay. Moi, ce que j'ai vu, c'était beaucoup de pauvreté. Donc c'est São Vicente. C'est là où il y a la ville de Mindelo. Donc c'est une ville très connue pour justement pour les voiliers, parce qu'il y a beaucoup de voiliers qui arrivent là pour faire les ravitaillements, pour repartir après sur la transatlantique.
Okay.
Donc moi, je me suis arrêté là. Et ce que j'ai découvert est assez triste parce que donc j'avais du temps un peu à perdre là-bas. J'ai fait le tour de l'île et j'ai ramassé des déchets sur une plage.
Ouais.
Et j'ai demandé aux gens où allaient ces déchets, parce que le fonctionnement d'une île est vraiment assez intéressant de savoir ce qu'ils font sur ce genre d'île qui est au milieu de l'Atlantique. Et en fait, tout le monde nous disait faut suivre la fumée. Du coup, effectivement, il y avait une grande fumée qui était visible très loin sur...
Et donc
par curiosité, alors que tout le monde me disait de ne pas y aller parce que c'était dangereux, j'y suis allé avec mon vélo, avec tout mon équipement, et j'ai rencontré des jeunes qui travaillaient dans cette déchetterie où tout est en train de brûler sans protection. Et donc voilà, c'est vrai que
c'était dangereux pour la santé et n'a rien à voir avec la sécurité.
Certains disaient que voilà, ça peut être des jeunes qui ont besoin d'argent. Donc moi, si j'arrive avec tout mon équipement, c'est vrai que j'ai un équipement qui
est...
Donc on m'avait mis en garde en disant peut-être que ça va bien se passer, mais fais attention, quoi. Et finalement, je suis tombé sur une personne qui était qui devait avoir 50-60 ans, qui avait l'air de connaître tout le monde sur la décharge, qui a compris pourquoi j'étais là. Et que j'étais pas là juste pour faire des simples photos, j'étais là pour comprendre ce qui se passait, et m'a vraiment aidé et m'a fait rencontrer tous les jeunes qui travaillent sur la décharge. Et là, c'était la première fois dans ce voyage où j'ai pris vraiment un gros coup dur, mais en même temps, je me suis dit, c'est pour ça que je voyage, et c'est aussi pour ça, pour mettre en avant les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation.
Quand tu dis que tu as pris un gros coup dur, ça veut dire quoi en fait? Typiquement, t'es là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, c'est quoi les trucs que t'as ressenti?
Oui, en fait, quand je me retrouve dans ce genre de situation, c'est juste que je vois la vérité, la réalité, parce que c'est des choses que j'imaginais voir, mais quand on le voit pas de ses propres yeux, c'est difficile à savoir les sentiments qui peut nous apparaître en nous. Donc, de le voir. Là, ça m'a vraiment bloqué. Puis j'étais tout seul, donc c'est difficile quand on est tout seul de pas pouvoir en parler avec quelqu'un. Et
bien
on a
sûr.
Beau en parler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, en fait, ils comprendront pas ce qu'on voit. Et du coup, de me retrouver là, je me suis dit, waouh, c'est pour ça que je veux faire ce projet. Et c'est pour ça aussi que je voyage. C'est pour me rendre compte aussi de la chance qu'on a, nous, chez nous, en France, ou même dans d'autres pays développés, la chance de pouvoir grandir dans des conditions de vie incroyables et géniales, quoi.
Et c'est justement si j'aime bien poser cette question. Bon, là d'habitude c'est pour des jolies choses, mais si là on mettait un casque de réalité virtuelle sur les yeux et que c'était toi qui dressais le décor, ça ressemblait à quoi malheureusement cette décharge au Cap-Vert?
En fait, je voyais des jeunes qui étaient sur des ordures et en fait tout était en train de brûler, quoi. Donc il y avait de la fumée, des fois c'était des feux qui dataient depuis longtemps, mais c'était vraiment des nuages de fumée
noire.
Et j'ai des photos qui représentent vraiment la situation. C'était aucune protection, c'était vraiment comme une situation d'apocalypse, comme si tout avait brûlé. Et en fait on se rend compte qu'il y avait des femmes et des hommes qui travaillaient là-dedans, qui juste pour récupérer de l'aluminium, du plastique. Et c'est une décharge qui n'était pas du tout, en tout cas, pas du tout gérée par la municipalité, quoi.
Ouais, donc forcément, t'arrives au Cap-Vert, tu te dis, hey, je vais aller me balader, je vais aller voir des petites plages super sympas. Et là, tu te prends un petit coup de bambou, pleine bouche, et ça te remet un petit peu dans l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres choses au Cap-Vert que t'as vues? Parce que du coup, c'est un son de cloche, je le prends. Il y a d'autres choses plus positives au Cap-Vert?
Oui, je pense qu'il y a vraiment de tout. Je pense que le Cap-Vert a vraiment beaucoup de diversité selon les îles. Il y en a qui sont vraiment plus développées au niveau touristique et du coup, en parallèle, ils ont plus d'argent pour se développer. Et donc, les situations sont un peu plus... sont différentes, en tout cas. J'ai vu des photos des gens qui vivaient là-bas qui m'ont dit « Ah, si tu as le temps, va par ici, va par là. » Et je pense qu'on peut vraiment trouver de tout dans ces îles. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des décors volcaniques, toutes ces îles sont des volcans et c'est quand même, les paysages sont quand même très beaux, quoi.
Okay.
Donc voilà.
Et par rapport à l'Uruguay, quand tu vas sur l'Uruguay, ça ressemble à quoi? Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que c'est marrant, l'Uruguay, de ce que j'en ai, c'est sympa, mais y a rien à voir, on se fait chier. J'aime pas en fait avoir ce ressenti. Je me dis merde, j'ai pas de ressenti moi, n'y étant pas allé. Je trouve ça bon, un feedback, voilà. Et toi, t'en as ressenti quoi?
C'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que moi, avant de débarquer dans ce pays, ben, pareil, j'avais aucune représentation réelle de ce
Et ouais.
pays, contrairement au Brésil, au moins on peut se faire une idée
C'est
parce qu'on
ça.
voit tellement de vidéos à la télé ou sur Internet. Mais l'Uruguay, ben ouais, c'était une grosse surprise. Et en plus, à ce moment-là, je me suis retrouvé à voyager avec 5 autres Français à vélo que j'ai rencontrés sur la route. Donc,
Ah,
on s'est
énorme.
tapé un trip à 6 en Uruguay. Et ça a été plutôt une belle découverte.
Ah.
Ce qu'on peut imaginer, en tout cas sur la côte, c'est ce qu'on a fait, c'est des très belles plages et c'est vraiment un monde. J'avais l'impression de repartir en arrière dans le temps où
Ah,
c'était
ok.
à l'époque des hippies aux États-Unis.
Sérieux?
Et c'est la jeunesse uruguayenne est vraiment dans un délire hippie et ce sont des plages. Il y a des plages. La plupart des plages sont vraiment préservées, c'est des petites cabanes.
Ah,
Et
nice.
il y a un endroit qui est connu qui s'appelle Cabo Polonio.
Ouais.
Et qui est très connu parce qu'en fait c'est un village sur une pointe au bord de la mer et en fait il n'y a pas d'électricité, tout est en autosuffisance et
Cool.
c'est vraiment un chouette endroit, c'est touristique donc on va y trouver des touristes mais vraiment de voir que ça peut marcher, que ce genre de communauté ben, ont leur raison aussi et de voir que ben, on peut faire quelque chose de sympa
Et c'est
et
ouais, justement,
oui.
c'est à part les plages, est-ce que vous êtes rentré, vous avez la chance de rentrer un peu plus dans le territoire? Est-ce que ce côté hippie, c'est très genre sur la côte? Et est-ce que sur l'intérieur, je sais pas, c'est très gaucho? Enfin, je te sors des trucs super stéréotypés, mais.
Alors, à vrai dire, je pourrais pas donner d'avis là-dessus parce qu'en plus, on était dans une période où c'était les vacances. Donc, je pense que beaucoup de la jeunesse uruguayenne profite de leurs vacances pour
Ok.
aller sur la côte. Donc, je pense pas que c'est des gens qui y vivent. En tout cas, on était vraiment dans l'atmosphère vacances dans le pays. Donc,
Ok.
super, super vibration. Les gens étaient vraiment, mais vraiment cool, quoi. Donc,
Nice.
non, de ce côté-là. Et puis, c'est un pays qui est très intéressant d'un point de vue politique également parce qu'il y a
Complètement.
un personnage politique qui est, je ne sais pas si tu en as entendu parler,
Qui a marqué leur ancien
qui est
président.
surnommé Pépé, voilà, exactement, qui a changé beaucoup de choses. Donc après, les avis sont très partagés le concernant, mais moi, de voir qu'une personne comme ça a changé quand même beaucoup de choses pour la population et notamment pour la jeunesse. Donc les jeunes le respectent plutôt beaucoup, les moins jeunes un peu moins, mais de voir du coup des choses qui sont incroyables et qu'on n'a pas vues chez nous, comme
Comme
par
quoi.
exemple là-bas, le cannabis est légalisé. Donc en
Ouais.
fait, c'est normal pour les gens d'avoir des plants de cannabis dans leur jardin, ce qui est inconcevable chez nous. Donc
Ouais.
de voir ça, c'est... Après, je dis pas que c'est une très bonne idée ou que ça en est une mauvaise, j'ai pas d'opinion à donner là-dessus, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont inconcevables chez nous et qui fonctionnent très bien là-bas, il n'y a pas d'abus.
C'est ça,
Et
en fait, il
donc
n'y a pas
voilà.
d'abus. Et c'est en fait pour ceux qui ne savent pas. Il a été dans le reportage de Yann Arthus Bertrand, où il a fait un super témoignage qui avait été beaucoup beaucoup repartagé. Ça ressemble à un petit agriculteur parce que ben en fait c'est un président qui a été très longtemps agriculteur et que ce mec est assez incroyable parce que ben, les présidents c'est souvent synonyme de d'élite, de riche, et lui il vient de la classe la basse classe sociale, sans aucune, enfin, aucune connotation péjorative, au contraire. Et au contraire, il a un discours de dingue parce qu'il dit: arrêtez de courir après l'argent. L'argent, ça se mange pas. Et que de toute façon, il y a quelque chose que vous comprenez pas. En gros, ce qu'il disait, c'est que c'est pas de l'argent que vous gagnez, c'est du temps que vous gaspillez, en fait. À chaque fois que vous dépensez de l'argent, c'est pas de l'argent que vous dépensez, c'est le temps qu'il vous a fallu pour l'économiser, en fait. Et en fait, il fait une promotion du retour à l'essentiel, des belles valeurs. Et c'est juste complètement dingue qu'un président d'un pays fasse la promotion de ces valeurs-là. Et que genre pareil, le mec il disait bah, j'avais le choix entre avoir un avion ou un hélicoptère pour moi, un présidentiel. Bah, en fait non, j'ai décidé de le filer pour un hôpital, tu vois, parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, juste terminé, bonsoir, en fait. Et dit j'en ai pas besoin, je m'en branle. Et rien que ça, c'est pour ça que ça m'intrigue beaucoup, ce pays. Et je pense qu'en fait tu confirmes une chose dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est finalement l'Uruguay, ça se visite pas, en fait.
Exactement.
Il n'y a rien à voir, il y a tout qui se ressent et qui se vit, si je comprends bien.
Et en plus, c'est un pays qui est quand même préservé du tourisme de masse. Donc vraiment, il y a de la vraie vie et tu peux aller dans un coin qui devrait être touristique à l'heure d'aujourd'hui et qui ne l'est pas. Et en fait, tu rencontres des locaux et tu as vraiment l'impression d'être dans un endroit mais magnifique, mais avec les locaux. Et c'est ça que j'ai adoré là-bas. Et du coup, ça a été une belle surprise. Et vraiment, on a passé de très bons moments là-bas, même avec les gens. Les gens ont été vraiment super
C'est
cool.
safe, ça va?
Mais bah oui, nous, on n'a eu aucun problème, en tout cas sur la côte. Mais enfin, c'est pas un pays qui est réputé comme
Ah,
dangereux,
non.
justement. En fait, on peut, je ne sais pas si on va me critiquer sur ce que je vais dire, mais c'est un peu la Suisse de l'Amérique du Sud, quoi. C'est pas ce qu'on entend beaucoup parler. Et c'est un pays qui se met pas vraiment en avant, mais qui a beaucoup de valeurs. Et c'est
Génial.
ça qui est super intéressant. Et c'est ce qui fait que c'est préservé encore aujourd'hui. Et j'espère pour longtemps.
Putain, tu me l'as vendu, maintenant je vais vraiment le mettre sur ma liste.
Ah
J'hésitais un
bah
petit
ouais,
peu, mais
il faut y
là,
aller.
franchement,
Non, non. Il faut y aller.
j'aimerais. Ouais, excuse-moi.
Et ouais, vraiment, ceux qui sont intéressés par ce que tu viens de dire concernant leur ancien président, je pense que si vous êtes intéressé, faut y aller et faut voir ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment, il a pris des mesures vraiment incroyables et pour le coup un peu révolutionnaires dans le monde politique, quoi.
C'est peut-être pour ça qu'on n'en fait pas trop la promotion au niveau mondial. Je voudrais pas que ça se propage de trop, tu vois. C'est un peu ça.
Peut-être. Mais en tout cas, j'ai entendu parler de cet ancien président qui conseille beaucoup d'hommes politiques et
Ah ouais?
partout en Amérique du Sud et même ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui est très partagé. Des gens disent qu'il a une vision utopiste, mais d'autres le respectent beaucoup et s'inspirent beaucoup de ce qu'il fait. Donc
Génial.
bon.
J'aimerais qu'on revienne un peu au début de ce voyage. Je t'ai dit pourquoi t'as voulu ramasser les déchets, mais je t'ai pas demandé le but de ce voyage. Pourquoi t'as voulu partir? T'avais déjà fait un tour d'Europe, tu vois, c'est un peu fat pendant 10 mois, c'est pas rien, t'envoies des choses, tu vis des choses. Pourquoi t'as voulu repartir aussi longtemps? Parce que tu pars pour un trip de 3 ans à vélo, hein, t'es pas en train de faire un tour du monde en avion, et bravo. Et ça a été quoi la motivation de repartir et de partir si longtemps? Tu cherchais quoi? Peut-être à te prouver, une question à répondre, t'y allais pourquoi?
Ben pour plusieurs choses en fait. J'ai voulu repartir parce que je voulais voir ailleurs que l'Europe, même si j'avais l'occasion d'y aller. J'avais été dans d'autres pays un peu partout dans le monde, mais pas à vélo. Et j'étais persuadé après ce premier voyage que c'est ce qui me correspondait le plus, le voyage à vélo. Donc j'étais sûr de cette base-là. Et j'ai voulu aller plus loin que l'Europe. Et surtout, j'ai voulu me tester. Et donc, moi, je suis persuadé que c'est une très belle façon de se tester personnellement. Et du coup, en apprendre plus sur moi et en apprendre plus sur les autres. Et du coup, en fait, c'est vraiment la façon pour moi qui est la plus complète. Après, chacun a sa façon de voyager, évidemment. Mais pour moi, personnellement, c'est ma façon à moi de me sentir bien dans un voyage. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à partir sur une idée de projet qui est sur un long terme. Et je me sens bien chaque jour sur mon vélo. Et je crois que je ne me suis pas encore posé la question pourquoi j'étais sur mon vélo, quoi. Même si des fois, il y a des jours difficiles, évidemment.
C'est très bien, ça me fait une super transition sur la question que je voulais te poser. Quand tu passes toutes ces heures à vélo, parce que c'est au moins 5-6 heures de vélo par jour, facile.
À peu près, ouais, 5 heures, on va dire.
5 heures de vélo par jour. Tu penses à quoi quand tu es sur le vélo? Tu vois, techniquement, c'est-à-dire, est-ce que tu remines des je sais pas, des anciens conflits que tu as vécu? Est-ce que tu revis tu repenses à ce que tu vas faire plus tard? Est-ce que tu remines je sais pas, des névroses que tu as? Ou est-ce que tu es plus dans le positif, dans le négatif? Ça passe par quoi toutes ces heures?
Ben, c'est comme quelqu'un qui marche, je pense que tu en as déjà fait l'expérience, des longues marches ou des gens qui partent en bateau, qui se retrouvent sur un voilier au milieu de nulle part. Nous, on a cette chance, du coup, en voyageant et en faisant ce genre de projet, d'avoir le temps de réfléchir, ce qui peut-être être fou, mais je pense que certains, dans notre mode de vie,
Ah,
sont
complètement.
un peu beaucoup, enfin, pas par choix, et c'est un peu imposé, mais on n'a pas le temps de vraiment de prendre le temps de réfléchir, de réfléchir sur soi-même. Et donc sur le vélo, ben, on a beaucoup de temps de le faire.
Bien
Et
sûr.
ça arrive des fois de vraiment partir loin, dans ses idées et même jusqu'à oublier d'être sur le vélo et se dire wow, tu reprends conscience et tu dis oh, en fait je suis sur le vélo et je sais même
pas
si c'est
passé. Je suis parti
super
loin,
ouais. Ouais, les 5 derniers kilomètres, c'était, je m'en rappelle même plus, je sais même plus par où je suis passé. Mais ouais, après, c'est des gros questionnements. Il y a des grosses phases où ouais, je me remets souvent en question sur qu'est-ce que je veux faire plus tard.
D'accord.
Et après, j'arrive à repositiver. Et puis des fois, c'est des pensées négatives. Et en fait, on est vraiment selon le temps, selon les étapes, selon les gens qu'on rencontre, il y a des pensées, mais c'est de la philosophie sur le voyage. Donc c'est vraiment aussi pour ça que j'aime voyager à vélo. C'est pour avoir le temps de réfléchir à mes réflexions. Mmh. Et ça fait du bien d'avoir le temps de poser les choses. Et franchement, ça, c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde. Et c'est pas forcément qu'à vélo, comme j'ai dit, une simple marche de 1 heure peut faire vraiment du bien. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se libérer un peu l'esprit comme ça.
Complètement. Moi, y a, pour te rejoindre totalement, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui m'arrivait souvent quand je faisais des randos ou des treks ou des longs trajets en bus où tu vois t'es un peu isolé parce que t'es tout seul, mm-hmm. c'est qu'il y a une pensée un peu négative ou une frustration, une situation que t'as vécue sur laquelle t'as un ressenti, t'as pas réussi à avancer, t'es un peu bloqué et tu vas la ruminer et en fait ça m'a permis de comprendre que de 1, en fait une pensée négative tu peux la repasser et que ça te... En fait tu dis putain je viens de passer... peut-être une demi-heure, ce qui est très très long sur une seule pensée, mais l'avantage que ça m'a permis au bout de plusieurs années en fait, parce que j'avais ce phénomène qui je faisais pas tout le temps des mauvaises pensées, mais quand il y en a une qui arrivait, putain, elle restait bloquée ultra longtemps en fait, et elle se faisait des scénarios de toutes les possibilités qu'il aurait pu se passer, mais un peu pour essayer de solutionner ça. Sauf qu'en fait, ce que j'en ai tiré, c'est que l'avantage, comme tu dis, d'avoir du temps pour réfléchir et laisser les pensées ressurgir, c'est que ça te permet en fait de comprendre ce qui t'a un peu bloqué, traumatisé, ce qui va pas, les choses avec lesquelles tu n'as pas fait la paix. Et en fait, quand tu cliques et que tu as une pensée qui vient en boucle pendant une demi-heure, et ben en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu arrives à t'en enlever, tu dis ok, ça c'est un truc avec lequel il faut que je fasse la paix parce que je m'étais pas rendu compte, je viens de la gamberger pendant une demi-heure. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est un peu comme un traitement purificateur qui au début passe par le tu remues la merde et après
ouais,
tu dis
exactement.
Attends. C'est beaucoup de merde ça. Et si je faisais la paix avec ça en fait et qu'on passait à autre chose.
Ouais.
Et puis ça m'a pas mal aidé. Justement, il y a quelque chose qui moi m'intéresse aussi parce que je trouve que c'est un peu un sacerdoce. Enfin, quand t'es en vélo, tu pédales, ça s'arrête jamais. T'es à l'intérieur, tu te dépasses physiquement, tu te dépasses mentalement. Mais je pense qu'après tous ces kilomètres, ces rencontres et finalement te mettre dans une ambiance qui n'est pas ton quotidien. Pendant beaucoup de temps, qu'il le devient, mais c'est quoi les pensées, les leçons, la perception de la vie que tu en as tiré, en fait comme si tu devais commencer ta phrase par tu rentres, tu racontes à ton meilleur pote, ton frère, ta mère, ou je sais pas, tu sais ce que je me suis dit quand j'étais sur mon vélo, c'est que, et j'espère que voilà, qu'est-ce que tu en as tiré de ça?
Donc c'est un peu ce que je dis parce que il y a des classes partenaires qui suivent ce projet et c'est ce que j'essaie de transmettre aux enfants. C'est que vraiment, moi, ce que je retiens de tout ça et de tous les voyages que j'ai pu faire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de chance de vivre dans le pays où on est. On a beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir voyager. On a rencontré beaucoup de gens qui rêvent de voyager, que ce soit à vélo, à pied. Ils ne peuvent pas parce que, d'une, il y a un problème d'argent et de deux, il y a un problème juste de nationalité. Et ça, on l'oublie trop vite. Et de savoir qu'il y a des Français qui ne veulent pas bouger, je peux le comprendre, mais je trouve dommage parce que c'est en voyageant qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on se rend compte justement de la chance qu'on a. Donc après cette étape-là, moi je suis persuadé que quand j'ai rentré en France, j'ai relativisé sur énormément de choses, sur mes conditions de vie, surtout sur le mental, surtout. Donc moi, c'est ce que je retiens vraiment, c'est qu'on peut se plaindre sur certains sujets, mais sur la plupart, je pense qu'on ferait mieux de relativiser et de se rendre compte de la chance qu'on a. Et voilà, faut s'en rendre compte parce qu'on l'oublie trop vite.
Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense qu'il y a une mentalité qui peut être pas mal. C'est en gros, sans forcément accepter les mauvaises choses, c'est savoir apprécier les vraies choses positives, s'en rendre compte, être reconnaissant, tout en essayant et dans une énergie positive, aller chercher et à améliorer, optimiser les choses, mais pas dans la frustration, la plainte ou l'énervement qui finalement vont faire que générer de la nouvelle plainte, de l'énervement et de la frustration.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui, tu vois, est-ce que si tu, on était autour d'une table là, on a quelques petits godets, on est en, je vais dire que on est en Uruguay, on est autour d'une table au bord de la plage. Etche, est-ce que tu pourrais nous raconter deux, trois petites histoires qui t'est arrivées pendant ce trip, ambiance, tu sais, on fait un tour de table avec les bonnes anecdotes. Est-ce qu'il y a des anecdotes drôles, dangereuses, marrantes, touchantes qui reviennent comme ça, que tu vois, que t'aimerais partager, que tu pourrais nous raconter?
Bah oui, bien sûr, il y en a même plus d'une, hein. Il y en a beaucoup.
Vas-y,
je repense
balance.
Au Chili. C'était l'une des premières nuits que je passais avec ma petite amie sur la route. Et là, on se fait héberger dans une maison de millionnaires, mais multimillionnaires.
Ah ouais,
sur la côte chilienne, alors que je demandais juste de l'eau à l'origine. Et là, j'ai dû très vite faire comprendre à ma petite amie que ça allait pas se passer comme ça tous les jours et que c'était exceptionnel parce que c'était le début du voyage.
Ouais, sympa ton trip à vélo.
Ah ouais, non, mais c'était fou. Et en
quoi,
plus, surtout, ils nous ont laissé. Bah, c'est le genre de baraque qu'on voit à la télé, vraiment sur le bord de l'eau, la côte et une maison, les maisons modernes,
toutes
en cube, carré, sur 3-4 étages, la piscine, un bassin de 25 mètres. Enfin, le truc incroyable.
Ah ouais. Et les mecs sympas. Ah oui, du coup, si
ouais, il y a des mecs très sympas. Ouais. Et je repense aussi au Nouvel An cette année. On était le 31 décembre et on savait pas trop quoi faire. On débarque dans une ville au Mexique.
Ouais.
On s'est dit, bon, on va aller à l'hôtel, on va passer la nuit tous les deux. Et puis de toute façon, on est claqué, donc on va aller dormir très tôt. On sait même pas si on va passer minuit.
Ouais.
Et au moment où on s'arrête manger sur le bord de la route, on était à, je sais pas, 200 mètres de l'hôtel. On s'est dit, on va manger sur le bord de la route avant d'aller à l'hôtel. Et là, il y a un scooter qui arrive. Ouais, alors, il nous pose des questions en espagnol. On répond, il dit oh, ça vous dit de venir avec nous ce soir, on va le faire en famille. Et en fait, on s'est retrouvé à faire le Nouvel An dans une famille mexicaine, et vraiment plus authentique il n'y a pas. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on voyage. Et,
wow.
Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est que, et tous les voyageurs, je suis sûr que tu vas me le confirmer, c'est qu'en fait, il y a forcément des galères dans un voyage, mais il y a toujours un truc positif qui se passe à un moment ou à un autre qui fait qu'en fait, là, tu reprends un rebond et tu dis waouh, en fait, c'est la folie du voyage, quoi. Ça ne peut pas être plat. C'est forcément, il y a des hauts et des bas, mais quand il y a des bas, il y a forcément le haut qui va arriver juste après. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et il se passe toujours, toujours quelque chose.
C'est assez fou. Est-ce qu'il y a des. Justement, quand tu dis que tu as plein d'anecdotes, est-ce qu'il y a eu. Tu as quand même traversé l'Amérique latine, mon pote, et l'Amérique centrale en vélo? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu tendus, dangereux? Je pense, je sais pas, au Salvador, au Honduras, qui sont réputés quand même. Faut faire gaffe, tu vois.
Exactement. Ben, du coup, oui, on peut dire que ben, même l'Amérique du Sud en général, voyager à vélo, c'est quelque chose qui me faisait peur même avant de partir.
Ouais.
Surtout que ben, du coup, je me suis retrouvé à voyager à deux. Donc, sur certains points, ça peut être confortant, mais dans d'autres, ça peut être encore plus stressant parce que du coup, on n'est plus tout seul. On n'est plus. Enfin, je suis plus que tout seul à me voyager. Ouais, à voyager. Donc, oui, il y a eu des moments. Je repense en Amérique centrale. Donc, comme tu as pu le citer, Nicaragua, Honduras, Salvador, c'est des pays qui sont jugés pas très dangereux, mais bon, peut-être dans un climat incertain et un peu stressant. Et donc nous, on l'a traversé. Après, on a été plus ou moins le plus rapide possible pour le traverser. Et au Salvador, on a longé la côte, donc c'est une région qui est pas si dangereuse. Mais en fait, on s'est rendu compte que là où c'était très dangereux, les gens ils flippent. Et les gens en Amérique du Sud, ils ont vraiment le cœur sur la main, donc ils ont vraiment l'esprit de d'aider les gens. Et dès qu'on se retrouvait dans une ville plus dangereuse qu'une autre, on trouvait toujours quelqu'un pour nous dire ah non mais c'est trop dangereux, bah venez, mettez la tente dans notre jardin. Ou et puis après ça découlait à un repas, et puis finalement on restait deux jours. Et puis en fait c'est
ah ouais,
on nous laisse jamais dans la galère, en fait. Et même c'est arrivé qu'on se fasse héberger à la police directement, ou
ah ouais,
dans la caserne de police au Salvador. On a fait beaucoup de casernes de pompiers également. Les pompiers sont très, très généreux et aident sans scrupule les voyageurs à vélo. D'ailleurs, c'est très connu en Amérique du Sud. Il arrive même que les pompiers ont un livre de voyageurs où tous les gens qui passent à vélo vont dans les casernes. Et c'est vraiment des livres d'or. Et il y a beaucoup, beaucoup de passages depuis des années. Et c'est une sorte de tradition pour les cyclistes de passer chez les pompiers, quoi.
Énorme, je n'avais pas du tout.
On trouve toujours des moments pour être en fait en sécurité.
Et est-ce que t'as d'autres, ce que j'aime pas terminer sur une note un peu négative, d'autres petites anecdotes qui font sourire, ou tu dis qui rafraîchissent un peu l'esprit?
Donc il y a une anecdote qui est assez sympa, c'est que on était au Mexique. Là, ça pour le coup, ça va vraiment vous faire rêver. c'est qu'on était donc dans une ville sur la côte, en Basse-Californie. Donc, c'est vraiment c'est une péninsule qui a en bas de la Californie aux États-Unis. Donc là, la Basse-Californie est au Mexique.
Ouais.
Et donc, notre rêve, c'était de voir des baleines, évidemment, comme toute personne, je pense. Et donc, on était à Guerrero Negro. Donc, c'est une ville qui est très réputée pour ses baleines. Sauf que bah, le prix pour voir des baleines, c'est quand même pas donné. Donc,
C'est-à-dire
bah,
100
ça
dollars.
va, c'est 50 $ par
OK.
personne, mais dans des conditions qui ne sont pas top et tout. Et on s'est dit, bon, est-ce que ça
Ouais.
vaut le coup de le faire,
T'as
sachant qu'on
raison.
en avait vu en Équateur, on en avait aperçu, voilà. Et donc, on se retrouve chez un couchsurfer. Donc, je ne sais pas si. Bah, en gros, le couchsurfing, c'est l'idée de se faire voyager par d'autres voyageurs. Et donc, on se retrouve chez un monsieur qui n'avait pas vraiment beaucoup voyagé, mais qui était intéressé par l'idée. Donc, il nous héberge sur place. Et donc, on lui explique qu'on aimerait bien voir des baleines. Et lui, il nous explique qu'il travaille dans une entreprise de sel. Donc là-bas, il y a une grosse entreprise de sel. Il nous dit, bah, écoutez, si vous voulez, je vais peut-être voir, peut-être qu'on peut vous emmener. Il y a des possibilités. Et en fait, le lendemain, il revient, il nous dit, bon, bah, c'est OK, demain, on part voir les baleines. On ne comprend pas trop
Quel
si
rapport
ça.
avec
Si...
l'entreprise de sel, ouais.
Bah, en fait, c'est que c'est une très grosse entreprise. Ils ont des bateaux et en fait, ils mettent des bateaux à disposition des amis, des employés.
Ah, ok.
Et donc, on est parti avec ce monsieur, on est parti à trois sur le bateau. Alors que la plupart des bateaux pour touristes sont environ, je sais pas, je dirais 8 ou 10. Et donc on est parti avec un professionnel des baleines et on a été les voir et on en a vu, mais je sais pas, peut-être 50 en une journée. On a
50.
même eu
Ah
l'occasion,
ouais.
donc là-bas, les baleines se rapprochent très facilement. Donc par exemple, ils coupent les moteurs des bateaux. Et du coup, il y a plus de question de s'approcher. L'idée de s'approcher des baleines n'existe plus. Et finalement, c'est les baleines qui s'approchent au bateau et viennent vraiment à la surface. Et en fait, on a pu même en toucher une, enfin, pour dire à quel point c'est incroyable.
Ah ouais,
Et voilà, on s'est
elles viennent
retrouvés.
vous taquiner, elles viennent regarder en fait. Elles
Exactement. Elles
cherchent le
sont très
contact.
curieuses et ouais, elles viennent au contact. Donc
Alors, je ne suis pas
d'après
pour
moi, il y
toucher les
a.
baleines, par contre. Je ne suis pas pour
Oui,
toucher les animaux sauvages.
mais dans
Mais
tous
elles
les
viennent.
cas, c'est pas l'idée de. Enfin, on n'avait pas l'impression de les déranger, en tout cas, par curiosité, elles viennent et elles repartent quand elles veulent. On n'est pas en train de les chasser.
Génial.
Donc c'est comme si on allait dans une grande baie et les baleines venaient à
Oh.
nous. Enfin, c'était incroyable. Donc de vivre ça et puis de se dire, bon bah voilà, on a rencontré ce monsieur, on était censé repartir à vélo, on reste un jour de plus pour finalement voir une cinquantaine de baleines. Enfin,
Yes.
c'est le genre de belle surprise dans ce voyage également.
Wow. Si tu pouvais rencontrer Maître Yoda, c'est un pote à Wam, je te le dis, voilà, et
Ah,
que
c'est cool.
tu étais sûr qu'il avait la réponse à la question que tu vas lui poser, et tu peux lui poser qu'une question, peut-être une question que tu as ruminée et que tu as peaufinée pendant toutes ces heures de trajet, ce serait quoi cette question? Tu es sûr qu'il a la réponse? Ça serait quoi?
C'est des réflexions qui sont difficiles, mais j'aimerais bien savoir si on tend vers un avenir vraiment positif. Je dirais, enfin, c'est compliqué, mais quand je vois tous ces déchets, que je vois
Ouais.
tout ce qui se passe sur notre planète, des fois, comme on l'a dit, on a des pensées négatives. Du
Bien
coup, des
sûr.
fois, ça m'arrive de penser en négatif en me disant, mais ce combat
Il est perdu.
et tout ce problème est inévitable.
Ouais.
Mais j'aimerais bien en savoir plus parce que quand je vois les mouvements qu'il y a actuellement, il y a quand même beaucoup de mouvements et ça part vraiment du plus bas, des gens qui se mobilisent, des associations, d'organisations, et on en parle de plus en plus. Donc souvent, je me dis quand même, non, il y a possibilité, on peut le faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien en savoir plus sur l'avenir pas de mon avenir, mais de l'avenir, bah, de notre humanité, en fait. Mais bon,
Alors
c'est.
celle-là, je pense que la réponse qu'il te donnerait, je peux déjà te la dire, je pense que c'est patience tu dois avoir. Parce qu'à mon avis,
Ben
ça va venir,
j'espère.
t'auras la réponse.
Non, mais
J'aime
oui.
bien terminer ce podcast avec deux questions traditionnelles. La première, c'est si tu devais résumer ce voyage en une punchline, une citation ou une phrase de ta création, ce serait laquelle?
En une citation, tu aimerais?
Yes. T'es pas obligé de continuer à parler comme Maître Yoda, mais ouais.
C'est pas une citation, mais c'est vraiment un état d'esprit. Je
Ça
dirais
peut
en
être une
fait.
phrase de ta création, donc c'est parfait.
Bah, c'est tout simple et c'est utopiste et certains rigolent en entendant ça, mais c'est juste de réaliser ses rêves et vivre positif. Et rien qu'avec juste ces deux principes, on peut faire en sorte que notre vie, elle est incroyable, quoi. Donc, Et vu qu'on n'en a qu'une à vivre, donc faut faire en sorte qu'elle soit incroyable. Donc, juste avec ces deux notions de vivre ses rêves et d'être positif, on peut aller très très loin dans une vie.
Et ça, c'est pas moi qui vais te contredire.
J'imagine.
Dernière, d'ailleurs, d'habitude, c'est l'avant-dernière celle-là. Et là, bah, du coup, ce sera la dernière. Si je te passe les clés de la DeLorean, et là, tu dis, ce Alex, il a des connaissances, il a des tuyaux, il est pas mal quand même. Si je te passe les clés de la DeLorean pour pouvoir revivre un seul moment de ce voyage depuis le début, alors quand je dis à chaque fois, c'est pas le plus fou, c'est pas le plus joyeux, mais un moment, ce serait lequel?
Dans ce voyage, c'est compliqué. Je crois que j'oublierai jamais en fait le moment où je me suis retrouvé dans le désert du Sahara tout seul.
Ah.
Et c'était vraiment au début de ce voyage et je me suis retrouvé tout seul dans ce désert. Bon, effectivement, il y a une route, hein, mais j'étais vraiment seul avec moi-même. Et là, j'ai très vite, je me suis, j'ai vite compris pourquoi je faisais ce voyage également. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et vraiment, je pense que ça va être difficile à revivre, mais j'arrive à c'était il y a un an à peu près, et j'arrive à me souvenir des émotions que j'avais, et ça,
Wow.
c'est souvent compliqué de se rappeler des souvenirs. C'est pas juste des images, c'est vraiment des émotions qui sont profondément inscrites au fond de moi, et c'était très très fort.
Et c'était
Donc
quoi comme
oui,
émotion? C'était de l'exaltation? C'était comment tu les
c'était un
décrirais?
mélange de beaucoup beaucoup de choses. C'était un mélange de stress parce que là je me retrouvais seul en Afrique. C'était un mélange d'excitation parce que je partais vers l'inconnu et dans une région qui n'est pas toujours simple non plus. Donc c'est vraiment un mélange d'émotions et c'était que des émotions très fortes, donc très intenses. Et cette intensité a fait que c'est pour ça que j'arrive à me rappeler de ces émotions aujourd'hui. Et c'est vrai que on n'a pas souvent la chance dans notre vie de vivre régulièrement des émotions aussi fortes. Et du coup, de les revivre, ça serait forcément qu'un plaisir pour moi de les revivre.
Waouh. Eh ben écoute Florian, je te remercie beaucoup beaucoup pour tout ce partage, pour ces anecdotes, pour ces conseils, pour toute la philosophie que tu es en train de vivre parce que hey, tu es à la moitié mon pote hein. Tu es à San
Et
Francisco, il y a encore de la borne pour rentrer, surtout que tu vas faire
c'est
toute
clair.
l'Asie. Bon là ça va être plus relax entre guillemets en termes de stress par rapport à la sécurité, là tu peux relâcher la pression même si faut pas non plus hein, les règles d'usage faut les appliquer partout parce que voilà un vol un oubli c'est vite arrivé parce que des fois c'est pas des vols c'est tout simplement un oubli et quand on a refait 50 km bah après c'est compliqué de retrouver les choses internaute il y a toujours un truc qui nous fait plaisir c'est les petites dédicaces en story donc tu peux me taguer moi et Florian donc Florian c'est My Cycling avec le jeu de mots clean en anglais, nettoyer, cycling trip. Tu nous tags et tu nous dis ce que tu as pensé du podcast. Ça se trouve, tu es sur ton vélo en train de l'écouter. J'imagine peut-être aussi, peut-être en fonction, si tu es encore en quarantaine, ça peut arriver. J'espère que ça va pas durer jusqu'au moment de la diffusion du podcast, au moment où on enregistre. Voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir. Et puis, si tu veux retrouver tous mes conseils voyage, mes astuces, mes itinéraires de tous mes voyages, et bien sûr, tu vas sur mon blog viséo.net, il y a tout. C'est ma petite Bible. J'espère que ça va t'aider. En tout cas, Florian, moi je te dis merci beaucoup. Et surtout, je te
Merci à toi.
dis bonne route. Mais la route, l'asphalte, parce que tu vas encore en
Ouais,
bouffer.
c'est clair, il y a des kilomètres devant.
Tu m'étonnes.
Merci Alex.
Ciao.
Ciao.